Ancêtre de l'ère de la diffusion. Les contes de Yun Tianming. La première réunion du comité de renseignement et de décryptage, CRD, se déroula elle aussi dans une chambre anti-intellectron. Bien que l'opinion commune soit encline à croire que les intellectrons étaient définitivement partis et que le système solaire et la Terre étaient nets, on préféra ne rien négliger. On craignait pour la sécurité de Yun Tianming au cas où les intellectrons auraient encore été dans les parages. Pour l'heure, seul le contenu de la conversation entre Yun Tianming et Cheng Xin avait été rendu public. Celui des trois contes était classé top secret. Dans une société moderne où la transparence était hissée au rang de vertu, il était délicat, tant pour les Nations Unies que pour les flottes internationales, de maintenir une telle information confidentielle. Mais les différents pays s'accordaient sur un point. Sitôt le contenu des informations transmises divulguées, une vague immense de décryptage submergerait le monde et la sécurité de Yun Tianming serait compromise. On ne s'inquiétait pas tant pour Yun Tianming lui-même, mais pour le seul être humain immergé au sein d'une société extraterrestre qui s'enfonçait chaque jour un peu plus dans les profondeurs de l'espace. L'humanité pourrait encore devoir compter sur lui dans l'avenir. Dans le même temps, le fait qu'elle soit capable de garder secret le décryptage du rapport de Yun Tianming était un signe du pouvoir croissant des Nations Unies, qui prenait peu à peu le pas sur celui des gouvernements nationaux. Cette chambre anti-intellectron était bien plus spacieuse que celle où avait été accueilli Cheng Xin après son retour sur le terminal, mais l'espace était très réduit pour une salle de réunion. Les champs de force générés jusqu'ici pour contrer les intellectrons n'étaient efficaces que dans un volume limité. Un espace plus important présentait le risque de causer des perturbations dans le champ et de faire perdre à la chambre son effet de blindage. Plus d'une trentaine de personnes étaient réunies dans la salle, dont deux autres individus de l'ère commune, tous deux anciens candidats au poste de porte-épée. L'ingénieur de l'accélérateur de particules Bi Yunfeng et le physicien Cao Bin. Tous portaient des combinaisons intégrales de protection contre le haut voltage, pour éviter qu'ils ne se retrouvent accidentellement en contact avec les parois électrifiées de la chambre. Il était notamment exigé des participants qu'ils portent des gants de protection. On craignait qu'ils ne tapotent machinalement sur les murs. Aucun équipement électrique ne pouvait fonctionner dans ce champ de force anti-intellectron, et aucune fenêtre n'était donc activable dans la pièce. Afin de garantir la répartition uniforme du champ de force, le mobilier aussi avait été réduit à son strict minimum. Quelques chaises et aucune table. Les combinaisons portées par les participants étaient à l'origine utilisées par des ouvriers de l'industrie électrique, si bien que le groupe ressemblait à une équipe de travailleurs en route pour l'usine. Personne ne semblait toutefois se plaindre de cette rusticité et de cette exiguïté, ni de l'odeur irritante et des démangeaisons causées par l'électricité statique dans l'air. Après avoir vécu pendant trois siècles sous la surveillance constante des intellectrons, les participants jouissaient au contraire d'être enfin libérés de ces espions étrangers. La technologie de blindage anti-intellectron avait été développée peu de temps après la fin de la Grande Migration. On racontait que les premiers sujets à être entrés dans une chambre anti-intellectron avaient été atteints du syndrome du blindage. Ils s'étaient mis à déverser un long flot de paroles, comme s'ils étaient ivres, se racontant les détails les plus intimes de leur vie, sans se préoccuper de ceux vers qui ils s'épanchaient. Un journaliste avait décrit la situation dans une prose lyrique. « Dans ce petit coin de paradis, les hommes ouvrent leur cœur et cessent de maquiller leur regard. » Le CRD était un organisme placé sous l'égide conjointe des Nations Unies et des flottes internationales, dont la mission était de décrypter les informations transmises par Yun Tianming. Il se divisait en 25 unités, réparties en différentes disciplines et domaines d'expertise. Les participants à la réunion du jour n'étaient cependant ni experts ni scientifiques, mais membres du CRD et responsables de chaque unité. Le président du CRD commença tout d'abord par exprimer au nom des Nations Unies et des flottes internationales toute sa gratitude à Cheng Xin et Yun Tianming. Il qualifia Yun Tianming de plus grand guerrier de l'histoire de l'humanité. Il était le premier humain à avoir survécu dans un monde extraterrestre et, en plein cœur de l'ennemi, dans un environnement difficilement imaginable, il avait combattu seul pour apporter une lumière d'espoir à une terre en danger. Cheng Xin fut quant à elle louée pour le courage et la vivacité d'esprit dont elle avait fait preuve au moment de recueillir ces informations. Cheng Xin demanda d'une voix douce au président à prendre la parole. Elle se leva et parcourut l'assistance du regard. « Mesdames, messieurs, ce que vous avez devant les yeux aujourd'hui est le résultat du programme Escalier. Ce projet est indissociable d'un homme. Sans sa ténacité, ses talents de décideur et sa créativité, ce programme n'aurait jamais pu surmonter les obstacles dressés sur sa route et voir le jour il y a 3 siècles. Je veux parler de Thomas Wade, l'ancien directeur de l'Agence de renseignement planétaire. Je souhaiterais que nous lui rendions aujourd'hui hommage. » Le silence se fit dans l'assemblée. Personne n'appuya la suggestion de Cheng Xin. Pour la plupart d'entre eux, Wade était le symbole par excellence des ténèbres de l'ère commune. Il était le miroir inversé de cette jeune femme qu'il avait d'ailleurs bien failli tuer. La simple évocation de ce monstre leur causait des frissons. Le président du CRD, lui-même actuel directeur de l'ARP et donc lointain successeur de Wade, ne réagit pas lui non plus à la proposition de Cheng Xin et reprit l'ordre du jour. Le comité a établi un principe de base très simple au sujet du processus de décryptage des renseignements. Ceux-ci ne fournissent très probablement aucune indication technologique concrète, mais nous croyons qu'ils sont peut-être destinés à nous orienter dans la bonne direction pour développer des technologies encore inconnues, comme le voyage à la vitesse de la lumière ou la déclaration de sécurité cosmique. Si nous parvenons à y déceler certaines pistes, cela sera un merveilleux signe d'espoir pour le monde humain. Les renseignements recueillis comportent 2 parties. La conversation entre Yun Tianming et le docteur Cheng Xin et les 3 contes. Une analyse préliminaire tend à nous laisser penser que les informations les plus cruciales se cachent dans les 3 histoires et que peu d'éléments concrets peuvent être tirés de la conversation elle-même. Nous concentrerons donc nos efforts sur le contenu des histoires, mais, à toutes fins utiles, je rappellerai ici les informations que nous avons pu obtenir grâce à cet échange. Tout d'abord, nous pouvons affirmer que Yun Tianming a effectué un très long travail préparatoire. Il a inventé 100 contes, au milieu desquels il en a glissé 3 comportant des informations décisives. Il a raconté puis fait publier ses histoires, de manière à les rendre familières au monde trisolarien. Ce processus a dû être long et délicat. Il fallait que l'ennemi n'ait aucune suspicion concernant le contenu des histoires, pour qu'il continue à les considérer comme sûrs dans l'avenir. Et il a même pris une précaution supplémentaire. Il se tourna vers Cheng Xin. « Je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que, comme l'a soutenu Yun Tianming, vous vous connaissiez vraiment étant enfant ?» Cheng Xin secoua la tête. « Non, nous nous sommes connus à l'université. Nous venions effectivement de la même ville, mais nous n'avons jamais été ensemble dans le primaire, ni dans le secondaire. Le salaud, avec un tel mensonge, il aurait pu faire tuer Cheng Xin !» s'écria A.A., assise à côté de Cheng Xin, qui s'attira des regards obliques. A.A. n'était en effet pas membre du CRD et participait à la réunion en qualité de consultante et d'assistante de Cheng Xin. C'était sous l'insistance de cette dernière qu'elle avait été autorisée à venir. A.A. avait certes apporté jadis quelques contributions au champ astronomique, mais son expérience ici ne valait pas grand-chose et elle était traitée avec un certain mépris. Tous estimaient que Cheng Xin aurait mieux fait de s'attacher les services d'un consultant plus qualifié. Cheng Xin elle-même oubliait parfois qu'A.A. était avant tout une scientifique. « Les risques étaient faibles », rétorqua un fonctionnaire de l'ARP. « Leur enfance datait d'avant la grande crise, c'est-à-dire avant que les intellectrons n'arrivent sur Terre, et de toute façon ils n'auraient jamais été la cible de leur surveillance. Mais ils auraient pu consulter des archives datant de l'ère commune. Est-il facile aujourd'hui de trouver des documents sur 2 enfants ayant vécu avant la grande crise ? Et même en admettant que les intellectrons aient retrouvé d'anciens registres scolaires, le fait qu'ils n'aient pas fréquenté la même école élémentaire ou le même collège ne suffit pas à prouver qu'ils ne se connaissaient pas. « Et il y a encore une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, » fit le fonctionnaire, ne dissimulant pas son mépris pour l'ingénuité d'A.A. Yun Tianming était en mesure de sonder les intellectrons. Il a dû s'assurer au préalable qu'il n'y avait aucun danger. Cette prise de risque était nécessaire, reprit le président. En attribuant ces histoires à Cheng Xin, ils renforçaient leur nature inoffensive aux yeux de l'ennemi. Après plus d'une heure de récit, la lumière orange ne s'est pas allumée une seule fois. Nous avons même découvert que Yun Tianming a dépassé le temps à l'origine fixé par les trisolariens. Par empathie, les intellectrons ont laissé la conversation se prolonger de 6 minutes pour permettre à Yun Tianming de terminer l'histoire, ce qui montre bien que ces contes ne leur inspiraient pas la moindre méfiance. En choisissant de présenter Cheng Xin comme celle qui avait inventé ces histoires, le message de Yun Tianming était clair. Ces 3 contes contiennent des informations. Quant aux autres informations décisives qui peuvent être tirées de la conversation, elles ne sont pas très nombreuses, mais nous sommes tous d'accord pour dire que la dernière phrase de Yun Tianming est plus importante que les autres. Le président agita instinctivement sa main pour faire apparaître une fenêtre holographique dans l'air, puis quand il se rendit compte que rien n'apparaissait, il la répéta lui-même. « Décidons d'un lieu pour notre prochaine rencontre, hors de la Terre, quelque part dans la Voie lactée. » Cette phrase peut revêtir 2 significations. La première, que Yun Tianming estime qu'il ne lui sera jamais possible de revenir dans le système solaire. La deuxième, le président s'interrompit et agita encore sa main comme s'il voulait chasser quelque chose. Ce n'est pas si important. Poursuivons. L'atmosphère devint pesante dans la salle de réunion. Tous savaient très bien ce que n'avait pas voulu dire le président. Yun Tianming n'avait aucune foi dans la survie de la Terre. Des dossiers à couverture bleue furent distribués à tous les participants. Ils ne portaient aucun titre, seulement un numéro. À cette époque, les documents papier étaient déjà très rares. « Je vous demande votre attention !» Ces documents ne pourront être lus que dans cette salle. Vous ne devez en aucun cas les emporter à l'extérieur ou en faire la moindre copie. La plupart d'entre vous allez les consulter pour la première fois. Je vous invite à présent à prendre connaissance de leur contenu. » Tous se turent et commencèrent à lire avec une attention extrême ces 3 histoires qui pourraient peut-être sauver la civilisation humaine.